Accent d'Europe, Catherine Roland. Bonjour à tous et bienvenue dans cet accent estival. Bien difficile aujourd'hui pour un journaliste d'exercer librement et sans contrainte son métier dans certaines régions d'Europe. C'est le cas en Russie, en Turquie, à Malte, en Slovaquie, mais aussi en Hongrie. Depuis son arrivée au pouvoir en 2010, le Premier ministre Viktor Orban n'a cessé de renforcer son emprise sur les médias, notamment l'audiovisuel public. Des douzaines de journalistes ont été renvoyés. Radio et télévision publiques sont aujourd'hui contrôlées et dirigées au plus haut niveau de l'État. Reportage Florence Labruyère.
Nouvelle attaque au couteau à Vienne en Autriche. Une Hongroise vivant en Suède envisage de quitter le pays à cause des migrants. Si la Hongrie était forcée d'accueillir des migrants, l'économie ne le supporterait pas, déclare Viktor Orban. Ce sont les titres qui ouvraient le journal télévisé de la première chaîne publique dimanche dernier. Une chaîne complètement dominée par le gouvernement, estime Agnès Urban, professeure à l'université Corvinus de Budapest et chercheuse à Mertek, un observatoire indépendant des médias.
Ce journal télévisé dure une heure. Eh bien, pendant 23 minutes, il n'a parlé que du danger qui règne en Europe de l'Ouest, des migrants qui terrorisent la population à Vienne en Autriche, dans plusieurs villes d'Allemagne et à Bruxelles. 23 minutes là-dessus. Dans le passé, le service public n'a jamais été un modèle d'objectivité. Il a toujours eu tendance à suivre la ligne du gouvernement, quel qu'il soit. Mais là, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. C'est de la propagande pure.
La loi sur les médias que Viktor Orban a fait voter par sa majorité a mis en place une autorité de surveillance. Celle-ci doit veiller à une information équilibrée et objective. Mais la loi n'est pas appliquée. Agnès Urban.
Il y a un conseil des médias composé de 5 membres, mais ils sont tous nommés par le parti au pouvoir. Vous ne verrez jamais cet organisme prendre des sanctions contre la télévision publique.
Le gouvernement de Viktor Orban a regroupé toutes les chaînes de radio et de télévision dans un centre de production de l'audiovisuel public, un peu comme à la BBC au Royaume-Uni. Comment l'information est-elle produite ? Explication de Daniel Rény, journaliste d'investigation et lauréat du prix Pulitzer, qui travaille pour un portail indépendant.
On a peu d'informations sur ce qui se passe, mais nous avons eu accès à des emails qui montrent que c'est très centralisé. Il y a un groupe informel autour du conseiller du Premier ministre, Arpad Aboyne, et c'est ce groupe qui sélectionne et rédige les nouvelles. Des représentants de médias proches du gouvernement appartiennent aussi à ce cercle.
L'audiovisuel public est donc un exécutant qui reproduit la communication gouvernementale. Un autre élément inquiète le journaliste Daniel Rény.
L'un des phénomènes les plus préoccupants, c'est l'influence russe sur notre service public. Je ne parle pas seulement des méthodes comme la fabrication de fake news, mais aussi des thèmes qui sont suggérés par les services secrets russes. Par exemple, à propos de la Syrie, très souvent, les médias publics donnent uniquement le point de vue des Russes. Kronika, a Kossuth Rádió hírműsora.
En raison du grand froid, le gouvernement va donner 12 000 forints à chaque famille pour compenser les frais de chauffage. Le gouvernement a aussi décidé de donner 10 000 forints à chaque retraité. Il s'agit de mettre en avant la générosité du gouvernement de Viktor Orban. Pourtant, selon le député de la majorité, Gergely Gulyás, la Hongrie respecte le pluripartisme des médias et la liberté de l'information. En Hongrie, les médias publics et privés sont plus libres qu'en Allemagne, estime ce député. Le journaliste Bolaj Lang n'est pas de cet avis. Il y a une quinzaine d'années, il a travaillé pour la radio publique hongroise.
À l'époque, c'était une radio objective. Les informations présentaient des tas d'opinions différentes. Mais aujourd'hui, c'est de la pure propagande. On ne parle que de Soros, des migrants, du gouvernement Orban. J'étais à Bruxelles récemment et j'ai rencontré un haut responsable européen qui s'occupe des médias. Je lui ai demandé son avis sur la situation en Hongrie et il m'a dit « Ah bon, il y a un problème ?» J'étais sidéré. Ça se passe en plein milieu de l'Europe. On a un service public de type nord-coréen et personne ne fait rien.
A priori, le service public a une audience faible. Le journal de la première chaîne n'est regardé que par 150 000 téléspectateurs. Mais de nombreux médias privés appartiennent à des oligarques proches du pouvoir. Et on y entend la même propagande. Le service public hongrois fait partie d'un empire médiatique dirigé par Viktor Orban et son entourage. Un empire qui fabrique tous les jours des fake news pour traîner dans la boue les politiciens d'opposition.
Des pressions, il y en a aussi sur les journalistes de la LRT, la radio et télévision publique de la Lituanie. En début d'année, une commission d'enquête parlementaire a été formée pour étudier le fonctionnement de l'audiovisuel public, mais beaucoup crient au règlement de compte politique, précision Marielle Vitureau.
12 questions sur l'audiovisuel public lituanien, la LRT. C'est ce à quoi devra répondre la commission d'enquête parlementaire. Salaire, financement des productions originales, type de contrat signé avec les sociétés de production extérieure. Tout y passe. Les journalistes ou les chercheurs reconnaissent bien la nécessité pour l'organisme public de faire la lumière sur son fonctionnement et l'usage de son budget de près de 39 millions d'euros. Mais ils s'accordent aussi pour dire que le faire via le Parlement est la plus mauvaise des solutions. La commande politique est bien trop évidente. Cette commission d'enquête est initiée et dirigée par un homme politique mis en cause dans les médias à cause de l'opacité avec laquelle il gère ses affaires. En effet, Ramona Skrabauskis n'est pas uniquement à la tête de l'Union des Verts et des Paysans, c'est aussi un grand propriétaire terrien. Des questions se posent d'ailleurs sur la légalité du mode d'acquisition de ces terres. Même EBU, l'Union des diffuseurs publics européens, a réagi à cette enquête, dénonçant elle aussi la pression faite sur les journalistes de la LRT. Depuis la création de l'association en 1950, c'est la première fois qu'une société publique d'audiovisuel fait l'objet d'une enquête parlementaire. Pour les détracteurs de cette commission d'enquête, il revient à la Cour des comptes ou à des sociétés indépendantes d'effectuer le contrôle de la LRT si celui-ci s'avérait nécessaire. Le futur nouveau PDG, c'est déjà ce qui l'attend dès sa prise de fonction, résoudre ce conflit avec le Parlement.
Avec ses 12 millions d'habitants et même plus, Moscou est un véritable monstre urbain. La capitale russe produit 20% des ordures ménagères du pays. La gestion de ces déchets est un énorme problème puisqu'en Russie, la pratique du recyclage est très peu développée. La plus grande ville d'Europe déverse tout dans sa région, ce qui suscite désormais la révolte des villes alentours. Les habitants se plaignent notamment des nuisances provoquées par des décharges saturées. C'est le cas à Volokolamsk, situé une centaine de kilomètres à l'ouest de Moscou. Une cinquantaine d'enfants a même été hospitalisés, victimes d'émissions de gaz toxiques. Un collectif s'est formé pour obtenir la fermeture de la déchetterie Étienne Bouche.
Pourquoi devons-nous supporter les ordures des autres? Pourquoi personne ne nous a demandé si nous étions d'accord pour accueillir les ordures de Moscou?
Sur la place de l'administration de Volokolamsk, plusieurs milliers d'habitants sont venus demander des comptes. La décharge voisine leur rend la vie impossible. Elle émet des gaz toxiques qui répandent une forte odeur dans toute la ville. Le mouvement de protestation n'est pas nouveau, mais il a pris une ampleur inédite lorsqu'une cinquantaine d'enfants d'une même école ont été hospitalisés. Dmitri est père de 3 enfants.
Aujourd'hui, c'est impossible de rester à la maison. La nuit, on ne peut pas respirer. On habite au 3e étage, mais qu'il y ait du vent ou pas, ça pue. On étouffe, les enfants ne peuvent pas dormir, ils ont la nausée.
Les manifestants disent tous ressentir les mêmes symptômes. Problèmes respiratoires, maux de tête, vomissements. Ils réclament la fermeture de la décharge, la démission du gouverneur de la région et la mise en place d'un régime d'exception. Il y a quelques années encore, la décharge n'accueillait que les ordures des communes alentours. Mais depuis peu, la quantité d'ordures a explosé. Certaines décharges de la région ont fermé, si bien que les ordures ont été envoyées ici. C'est ce qu'explique Alexandra, qui habite à 3 km de la décharge.
Il y a 20 ans, c'était un endroit très propre ici. Nous avions une parcelle de terrain, on a fait construire une maison. Mais depuis un an et demi, 2 ans, c'est devenu invivable. Aujourd'hui, la moitié des terrains est à vendre, mais le prix s'est effondré à cause de la situation écologique.
À chaque rassemblement, un représentant vient nous assurer qu'une commission va être formée, qu'on va mener une expertise. Ces commissions inutiles payées par nos impôts et corrompues, non merci! Nous exigeons la fermeture de la décharge. Je ne vous entends pas. Qu'est-ce que nous voulons? La fermeture! La fermeture!
Activistes et anonymes se succèdent au micro pour se faire entendre. Jusqu'à présent, les autorités ont fait mine de se saisir du problème, mais s'emploient à minimiser les conséquences sanitaires. Elles assurent que la situation n'est pas dangereuse, ce qui ne les empêche pas de distribuer des masques respiratoires à la population et d'envoyer les enfants faire des cures dans des sanatoriums. Selon Svetlana, qui travaille comme infirmière à l'hôpital de la ville, les autorités imposent l'omerta.
À l'hôpital, personne ne dit rien. À tous les niveaux, les médecins, les infirmières, les femmes de ménage, on leur a tous interdit de dire la vérité. Les gens s'empoisonnent. Moi aussi, j'ai un fils de 38 ans. Tous les jours, il a le nez qui saigne alors que c'est un garçon solide. On nous empoisonne.
Après l'hospitalisation d'une cinquantaine d'enfants, les autorités régionales ont promis la fermeture de la décharge. Un système de dégazage doit théoriquement être installé. L'annonce suscite le plus grand scepticisme auprès d'une population habituée d'être bernée par ses représentants. Nikolaï Dijour est un élu municipal de la ville de Tchekhov, au sud de Moscou. Il est venu soutenir les habitants de Volokolamsk. Selon lui, le responsable de l'incurie n'est autre qu'Andrei Vorobyov, le gouverneur de la région de Moscou.
En avril 2013, Vorobyov a écrit une lettre au président Poutine au sujet de la fermeture de 39 décharges, avec pour objectif de développer le secteur du recyclage. En 5 ans, pas une seule usine n'a été construite. Ces 5 dernières années ont juste servi à détourner l'argent et se le mettre dans les poches. L'argent n'a pas du tout été investi dans la construction d'usines de recyclage, dans la création d'infrastructures de tri des déchets. On balance tout comme au Moyen-Âge, avec un seau directement sur le sol.
La région de Moscou est confrontée à un sérieux problème écologique. Elle produit 20% des 70 millions de tonnes de déchets annuels en Russie. L'essentiel est généré par la capitale. Près de 90% des ordures terminent à la décharge. La pratique du recyclage est embryonnaire. Plusieurs décharges doivent être fermées dans les années à venir, mais la réponse apportée par l'État est loin de satisfaire les écologistes. L'année dernière, Vladimir Poutine préconisait la construction d'usines incinératrices. Une erreur selon Alexandre Ivanikov, spécialiste de la gestion des ordures chez Greenpeace Russie.
Nous avons encore un nombre limité d'usines incinératrices. Actuellement, il y en a 6. Aujourd'hui, la Russie se trouve à la croisée des chemins, sauf que le choix de l'incinération est une impasse. On prévoit de construire 4 usines dans la région de Moscou, à des endroits où vivent beaucoup de gens. On leur dit que cela ne présente aucun danger. Mais c'est faux. Non seulement ces usines ne résolvent pas les problèmes, mais en plus elles les aggravent d'un point de vue écologique.
La contestation anti-ordures a gagné plusieurs villes qui n'acceptent plus de jouer les poubelles de la capitale. Une action commune consistant à bloquer l'accès aux décharges de la région est prévue ce samedi, jour de l'anniversaire du gouverneur.
Turpitour, voilà un drôle de nom pour un drôle de tour organisé par des humoristes tous les week-ends à Bruxelles. À bord d'un bus, les visiteurs font un tour de la ville où ils apprennent des anecdotes croustillantes et pas toujours reluisantes sur la vie politique belge, les rois, les travaux ou encore les fonctionnaires européens. Lax Milota a pris le bus pour nous.
Bienvenue à ce Turpitour. Turpitour, pourquoi ? Parce que nous allons faire le tour des turpitudes de la ville de Bruxelles.
Il met une couronne sur sa tête. Jean-Michel Briou est désormais le roi du bus. La visite guidée commence à Saint-Gilles avant de partir vers Uccle, XL et le quartier européen. En route, le comédien égratigne les hommes politiques de tous bords et rappelle des faits anciens ou d'actualité. Exemple, l'affaire du SAMU social de Bruxelles. Le bourgmestre de la capitale a dû démissionner. Jean-Michel Briou fait chanter le public.
Qui pompe dans les commandes publiques ?
Grand public, grand public.
À la télé, toujours vous explique que les riches sont antipathiques.
Voilà. Cette idée, l'humoriste l'a eue peu après les attentats qui ont touché Paris et Bruxelles en 2015 et 2016.
On a eu l'impression à un moment donné que Bruxelles broyait du noir, que le monde entier lui tombait sur la tête. Même Donald Trump disait « c'est un trou à rats ». Et je me suis dit, tiens, et si on se disait, on va refaire revenir les gens à Bruxelles en parlant de tout ce qui ne va pas, mais en les faisant rire, comme si on voulait se réapproprier cette ville à laquelle on tient, mais qui effectivement a quand même de gros problèmes.
Sur la route, on apprend que les plans des tunnels de Bruxelles sont désormais introuvables, car entreposés dans un pilier, ils ont été dévorés par des souris. Mais aussi que le bâtiment du Parlement européen menace de s'effondrer, que la pluie tombe dans le musée des Beaux-Arts. Bref, un tour où Bruxelles se regarde dans un miroir avec toutes ses qualités et tous ses défauts. This is the kind of record I have always wanted to make available. Avec nous, Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Catherine.
Alors, direction la Grande-Bretagne pour rencontrer deux staccanovistes de la scène musicale outre-Manche.
Oui, avec à ma gauche, Laura Marling, qui du haut de ses 28 ans a déjà publié pas moins de 6 albums en 10 ans, dans un registre folk, tantôt acoustique, tantôt électrique, mais toujours très sombre et tendu. Et à ma droite, son aîné, Mike Lindsay, anglais installé en Islande, d'où il pilote beaucoup de projets, à commencer par son groupe Tongue, qui depuis 15 ans s'est spécialisé dans une pop sophistiquée aux frontières du folk et de l'électronique. C'est dans cette veine que s'inscrit Lump, une collaboration déclinée en 6 chansons somptueuses où mélodies et arrangements rivalisent d'inventivité et d'audace.
Merci de votre fidélité, merci aussi à Steven Hesley pour la réalisation.